L'Histoire jugera des élections dans le monde. Chaque semaine, des élus, des politologues, des universitaires, des essayistes, des laboratoires d'idées, et j'en passe, nous aident à comprendre les relations internationales. Tous les mardis matins, 8h à 9h, 102.3 FM.
Toujours à Radio Centre-Ville, le 102.3 FM, radiocentreville.com. On poursuit notre série d'analyses post-élection européenne et je le précise, cette entrevue a lieu vendredi suivant les résultats du 9 juin. Pour en discuter, c'est un lieu incontournable chaque fois que je viens en Europe, mais pas que, la Fondation Robert Schuman, où je suis reçu par sa directrice générale, Pascal Joannin, qui n'en est pas à sa première entrevue avec nous à Radio Centre-Ville. Pascal, c'est un honneur et un privilège d'être reçu par vous. Merci beaucoup.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors Pascal, avant de parler donc de cette fameuse journée du 9 mai et des semaines qui l'ont précédée, c'est-à-dire la campagne électorale, j'ai devant moi ma lecture annuelle obligatoire, le rapport Schuman sur l'Europe 2024, l'état de l'Union. Alors avant de parler de l'état 2024, parlons de l'état 2023. Comment qualifiez-vous l'Europe de l'année dernière, l'Union européenne de l'année dernière?
L'Europe de 2023, elle était toujours affectée par la guerre qui s'est déclenchée en 2022 par les Russes en Ukraine. Et donc, on a la guerre à nos frontières. Hein, je rappelle que l'Ukraine a des frontières avec 4 États membres de l'Union. Alors, ce n'est pas une guerre sur le territoire de l'Union. Qui a déclenché cette guerre, un certain nombre de changements, notamment dans les États membres qui avaient estimé qu'en 89-91, après la chute du mur, la disparition de l'Union soviétique, il n'y avait plus d'ennemis et donc on allait avoir la paix éternelle sur la Terre. Ils ont un peu baissé les bras en dépensant moins sur la défense, je ne parle pas des Français mais d'autres. Et donc depuis cette guerre, on a vu un certain nombre d'États membres réarmer, en tout cas dépenser plus dans pour leur défense. On a également, surtout, des États qui n'étaient pas dans l'OTAN, la Finlande et la Suède. Je rappelle que la Finlande est le pays qui a la plus grande frontière avec la Russie, plus de 1200 km, et que donc nos amis finlandais et nos amis suédois, qui étaient neutres, si on peut dire, puisque pas membres de l'OTAN, ont rejoint l'OTAN l'année dernière. Donc voilà, donc c'est quand même cet événement qui est resté prégnant en 2024 avec la poursuite des sanctions, avec la confiscation des avoirs russes qui étaient en Europe, avec en effet un certain nombre de programmes que l'Europe n'aurait jamais imaginé prendre pour aider les États membres à fournir des munitions, etc. Donc on voit bien que le soutien à l'Ukraine a été un des grands axes de l'année 2023. Et d'ailleurs, dans le rapport Schuman, nous avons un papier du ministre des Affaires étrangères ukrainien, parce qu'en effet, ça perturbe beaucoup l'équilibre des forces et du monde aujourd'hui, hein, y compris, on se tient aujourd'hui le G7, hein, où il y a le premier ministre canadien, le président américain, le président français et d'autres, et on voit bien que Zelensky y est, et que le G7 va annoncer encore des mesures pour l'Ukraine. Et donc, on est en 2024, cette guerre est toujours là, et donc on soutient l'Ukraine qui a été injustement agressée par les Russes.
Voilà, alors l'année 2024, elle, est l'année de transition, l'année électorale dans les 6 premiers mois. On connaît les résultats. Au terme d'une semaine d'analyse, j'ai remarqué, je suis pas le seul, que la victoire organisation de l'Union européenne n'a finalement pas eu lieu. Certes, l'extrême droite a augmenté en France et en Allemagne, mais on l'attendait aux Pays-Bas, elle a fini deuxième. Dans les États scandinaves, finalement, la gauche a gagné. Quelle est votre analyse globale des résultats?
Alors, il n'y a pas eu un renversement de table, il n'y a pas eu un raz-de-marée électoral en faveur de ces droites, on peut appeler radical, populiste, national, voire extrême, qui sont divisés. Hein. Donc c'est des droites, c'est pas une droite. Et donc ça n'a pas eu le raz-de-marée. Dans l'Union européenne, si on regarde les résultats à l'issue des 27, il ne faut pas se focaliser sur un État membre, il y a 27 élections qui ont eu lieu entre 6 et 9 juin, c'est le maintien des grands équilibres électoraux. La première force politique sortante, le Parti populaire européen, le centre-droit, reste la première puissance. Elle augmente même un tout petit peu son nombre de sièges. La deuxième puissance, qu'étaient les sociaux-démocrates, centre-gauche, reste deuxième et maintient son poids. Tous les deux sont au-delà des 100 députés et ce sont aujourd'hui les seuls groupes qui ont plus de 100 députés. Ils n'ont plus la majorité à eux deux depuis 2019. Ça avait été ça, le grand chambardement de 2019. Ils ont donc fait alliance avec les libéraux, qui s'appellent Renew maintenant, qui, à ce jour, sont toujours la troisième force, mais qui ont beaucoup baissé à cause du mauvais résultat en France du Parti Renaissance et à cause de mauvais résultats ailleurs, hein, notamment en Allemagne, le FDP, qui est un parti de la coalition, a fait 5%. Donc on a une baisse des... Mais les grands équilibres se maintiennent. Et si on veut avoir une majorité au Parlement européen, cette majorité, donc PPE, SD, Renew, est la seule qui compte 400 députés si on fait le bilan, et c'est la seule qui a ce chiffre-là. Derrière, on a en effet un groupe qui s'appelle les conservateurs et réformistes, dont le parti est dirigé par Giorgia Meloni, la première ministre italienne, qui a remporté les élections en Italie. Et puis, on a un cinquième groupe, qui est le groupe Identité et Démocratie, où siège en effet le Rassemblement National Français, qui a, lui, en France, on a fait un résultat, j'allais dire, un petit peu à contre-courant de tout ce qui s'est passé ailleurs, puisque les Français ont voté massivement pour ce parti, à plus de 30%, laissant le parti présidentiel derrière de la moitié du score. Et donc, comme vous l'avez dit, l'AFD progresse, mais ne reste que deuxième. Vox en Espagne n'est que troisième. Mais surtout, la Lega de M. Salvini, qui avait fait beaucoup, beaucoup de voix en 2019, retombe. Ils avaient plus de 25 députés, ils en ont plus que 8. Donc, j'allais dire, en Italie, il y a eu un vaste communiquant, c'est la Lega qui a perdu et Fratelli d'Italia qui a gagné, donc ça équilibre un peu les forces, mais la force maintenant, elle est du côté des conservateurs et plus de d'identité et démocratie. Les démocratiedo qui avaient été très forts aux élections législatives de 2022 n'arrivent que quatrième. Je ne parle pas du vrai Finlandais en Finlande qui sont sixième et de M. Wilders qui n'arrive que deuxième. Il y a le seul pays où en effet un parti est arrivé comme le Rassemblement National, c'est en Autriche. Mais en Autriche, ce parti fait un peu comme le Rassemblement National il y a 5 ans en France. Il est suivi de moins d'un point des chrétiens démocrates et derrière des sociaux-démocrates encore à un point. Il ne faut pas regarder le résultat français comme ce qui s'est passé. En France, on a une situation singulière. Dans l'ensemble de l'Union, on a plutôt la résistance des forces de centre-droit et de centre-gauche. Le centre-droit a gagné en Allemagne, en Espagne, en Grèce, en Pologne. Donc, ces grands pays, et donc lui donnent un avantage pour revendiquer dans la présidence de la Commission. Donc, il est fort probable que Mme von der Leyen, qui avait été désignée la dernière fois un peu au détriment de l'accord électoral, cette fois-ci fait partie de l'accord électoral, puisqu'elle est la candidate proposée par son pays, par son parti, la CDU, et par le Parti populaire, où elle a été adoubée dans un congrès qui a eu lieu en mars à Bucarest. Donc, compte tenu du résultat, vraiment, il n'y a pas photo, il n'y a pas 2-3 sièges d'écart entre le centre-droit et le centre-gauche, où on a une force... Elle peut très bien faire un deuxième mandat, c'est ce qui va se décider là dans les semaines qui viennent et avec une élection très probablement lors de la prochaine session plénière à Strasbourg au mois de juillet, le 18.
Voilà, Pascal Joannet, le temps file, il y avait beaucoup de sujets abordés, mais je vous sais préoccupé par la question de l'égalité femmes-hommes. Vous avez évidemment, je présume, bien observé cette campagne électorale. Est-ce qu'on a parlé de cette thématique? J'ai l'impression que pas tant que ça.
Non, on n'a pas. On n'a pas parlé de l'égalité homme-femme ou de la place des femmes dans cette campagne. Moi, je note simplement, si vous voulez, que très probablement, On va retrouver une femme présidente de la commission. Donc c'est quand même, c'était la première fois il y a 5 ans qu'il y avait une femme qui a accédé à ce poste. Il est très vraisemblable aussi, si l'accord politique qui se fait au Parlement européen entre les deux principales, dans les deux principaux groupes, se fait comment qu'on partagera la présidence du Parlement européen entre le PPE et le groupe SED, que la titulaire actuelle du poste puisse repartir dans la première partie, donc Roberta Metsola, qui est le maltaise, parce qu'elle a fait un très très bon score à Malte, parce qu'elle est jeune, et parce qu'il y a déjà eu un précédent, je rappelle que Martin Schulz, socialiste allemand, avait fini un mandat et elle avait recommencé un autre, donc il y a déjà eu un précédent, donc ça ne serait pas la première fois, avec en effet derrière un socialiste, et que dans l'équilibre des partis politiques pour ce qu'on appelle les top jobs dans un mauvais français, les postes à responsabilité, si le PPE revendique la présidence de la Commission, il est très probable que les socialistes ou sociaux-démocrates demandent la présidence du Conseil européen. Je rappelle que le titulaire ne peut pas se représenter puisqu'il a fait ses 2 ans et demi de mandat. Et que nous avons, dans le troisième tour de table, le poste de haut représentant pour les affaires étrangères. Les socialistes revendiqueraient cette fois-ci, contrairement à 2019, c'était un libéral, Charles Michel, qui avait été désigné, revendiquerait la poste du Conseil européen, et on parle beaucoup de l'ancien Premier ministre portugais, et pour le poste de haut représentant, et compte tenu de la guerre en Ukraine, il faudrait confier ça à quelqu'un qui vient de la partie orientale du continent.
Qui touche la Russie.
Voilà. Et on parle, pour ce poste-là, de la première ministre estonienne, Kaja Kallas, qui vient de cette famille politique, donc libérale, et qui donc représenterait une deuxième femme à un poste de responsabilité, on en avait qu'une, hein, puisqu'il y avait Josep Borrell, espagnol, qui est le titulaire du poste aujourd'hui, et on ferait entrer en effet un poste à responsabilité dans un des pays d'Europe centrale orientale qui est très préoccupé par ce qui se passe avec la Russie, la guerre en Ukraine, et aussi la Biélorussie. Il ne faut pas oublier ce pays. On a aujourd'hui, avec la Pologne, un vrai problème avec ce pays.
Voilà, faut-il le souligner, Tallinn et Saint-Pétersbourg, donc 300 km de distance, donc effectivement, elle sera bien positionnée pour regarder vers l'est ce qui se passe. Voilà, Pascal Joannet, encore une fois, je le rappelle, donc vous avez publié ce printemps le rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2024, avec entrevue exclusive avec Emmanuel Macron en plus. Merci beaucoup pour l'entretien. Je terminerai avec un slogan que je revendique moi-même et que je vous invite à utiliser. Ne rentre pas dans l'Union européenne qui n'est pas passé par la Fondation Robert Schuman. Voilà.
Merci pour la publicité, pour la Fondation et bonne journée à tous.
Voilà, et je le dis, je me sens adoubé européen quand je franchis ces bureaux du boulevard Saint-Germain. Merci beaucoup pour l'entretien.
Merci à vous, au revoir.
L'histoire jugera des élections dans le monde. Chaque semaine, des élus, des politologues, des universitaires, des essayistes, des laboratoires d'idées, et j'en passe, nous aident à comprendre les relations internationales. Tous les mardis matins, 8h à 9h, 102.3 FM.
Toujours à Radio Centre-Ville, le 102.3 FM, radiocentreville.com. On poursuit notre série d'analyses post-élections européennes. Et au moment où vous nous écoutez, nous sommes le vendredi suivant, le dimanche 9 juin. Donc, dans la semaine suivant la sortie des résultats, la plupart des pays ont confirmé leurs résultats. Pas tous, mais en grande partie, on sait où on s'en va. Et pour en discuter, pour faire un bilan de cette très longue campagne et surtout de ce qui nous attend dans les 6 prochains mois, il s'appelle Boram Tobelem. Il est web-rédacteur chez toute l'Europe et on a eu l'occasion déjà de l'interviewer cette année. Et il nous fait l'honneur et le privilège de nous recevoir dans ses bureaux, boulevard de Magenta, en plein 10e arrondissement. Et je le précise, touteleurope.eu pour en savoir davantage. Boram, bonjour et re-bienvenue à Radio Centre-Ville.
Bonjour François, merci.
Ça nous fait un grand plaisir. Alors avant de porter un regard bref et concis sur ces élections, toute l'Europe, qui êtes-vous?
Alors, on a un site d'information et d'actualité sur l'Union européenne. Donc, on part de l'actualité de l'Union européenne pour en expliquer son fonctionnement, faire de la pédagogie sur l'Union européenne.
Voilà. Alors, il y en a beaucoup de pédagogie à venir, c'est le cas de le dire. Alors donc, dimanche 9 juin, un peu comme tout le monde, j'imagine que tu as surveillé assidûment tes écrans un peu partout. Ce
ce que j'ai retenu de cette campagne, dans ses résultats, c'est que finalement, la possible victoire urbanisation de l'Union européenne n'a pas eu lieu. Hein. Mm-hmm. On attendait de l'extrême droite aux Pays-Bas, elle a fini deuxième. Même chose dans les pays scandinaves, en Finlande, par exemple, elle n'a pas terminé première. Finalement, France, Allemagne, Autriche, oui, et Italie, mm-hmm. mais ça, Italie, c'était déjà prévisible. Bref, quel constat portes-tu au lendemain du 9 juin?
Ben oui, effectivement, c'est vrai que la poussée est très très forte de l'extrême droite qui était attendue, qui était annoncée par certains, elle n'a pas eu lieu. Là, actuellement, les deux groupes d'extrême droite au Parlement européen qui sont Identité et Démocratie, le groupe où siège par exemple le Rassemblement national en ce qui concerne les eurodéputés français, et le groupe des conservateurs et réformistes européens où on trouve par exemple le parti Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni, pour l'instant ils gagnent que 17 eurodéputés, donc sur 720. Donc c'est vraiment une poussée modérée de l'extrême droite, beaucoup moins importante que prévu. Et le groupe de la droite conservatrice au Parlement européen, auquel appartient par exemple la présidente de la Commission actuelle, Ursula von der Leyen, et va peut-être succéder à elle-même à la tête de la Commission. On aura l'occasion d'en reparler. Il ressort renforcé. Il était déjà majoritaire au sein du Parlement européen, et là il sort renforcé parce que à l'heure où je te parle, bon, les groupes sont encore en train d'être finalisés, comme tu l'as dit, certains résultats sont encore provisoires, mais bon, on n'est pas loin du tableau final, quoi, du tableau général final. Là, à l'heure actuelle, ils gagnent au moins 15 eurodéputés supplémentaires, quoi. Donc, pour l'instant, c'est la droite qui domine encore au niveau européen. Les socialistes et démocrates restent le deuxième groupe, mais loin derrière, avec le Parti populaire européen, la droite, ils ont à peu près 190 eurodéputés, et les socialistes et démocrates autour de 135. Donc, ils restent quand même loin derrière. Et donc, le grand gagnant de ces élections, c'est la droite. Et l'extrême droite, elle a fait des très bons scores dans certains pays, on va peut-être y revenir, mais au niveau européen, elle progresse beaucoup moins que ce que certains annonçaient, effectivement.
On a beaucoup parlé d'écologie, mais manifestement, les électeurs ne sont pas verts, hein, faut le dire, sauf avis contraire, aucun parti vert ne fait de gain. Enfin, c'est la catastrophe côté français, et pas que. Dans certains pays, il y en a tout simplement pas. Est-ce que les questions écologiques intéressent les Européens? Est-ce qu'en fait, ça les intéresse au point de voter vert?
Ben, moi, je pense qu'elle les intéresse, effectivement, mais on voit quand même que les partis écologistes continuent quand même d'avoir des électeurs, mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup perdu d'électeurs. Ça a été le cas en France, où ils ont à peine atteint, fait un peu plus de 5%, qui est le seuil minimal pour obtenir des eurodéputés. Ils étaient à deux doigts de ne pas avoir d'eurodéputés, ce qui aurait été une catastrophe pour eux, effectivement, et qui aurait été... quand même une dégringolade énorme, quoi, pour eux. En Allemagne aussi, ils ont fini quatrième. C'est vraiment des scores qui sont très très faibles pour les Verts allemands. Mais après, les thématiques écologiques, elles sont quand même présentes dans quasiment tous les programmes. Enfin, on les retrouve très souvent dans les programmes des différentes listes aux élections européennes, quelle que soit la famille politique. Mais en fait, là, il faut prendre en compte que il y a eu la guerre en Ukraine, d'abord la crise du Covid, la guerre en Ukraine, une grande inflation, et donc maintenant des problématiques économiques et sociales ont pris le dessus, et ces problématiques économiques et sociales ont créé de la friction sur la ligne écologique de l'Union européenne, parce que l'Union européenne se veut leader de l'écologie avec son pacte vert, sa feuille de route pour objectif la neutralité carbone à l'horizon 2050. Et là, en fait, ce pacte vert, les gens comprennent bien que ça a un coût, et ils craignent, étant donné que la situation est devenue difficile économiquement, que ce soit en Europe, mais aussi au Canada, dans le monde entier, la situation économique est plus tendue qu'il y a quelques années, ils craignent un déclassement social lié aux mesures écologiques qui sont en train d'être prises au niveau européen. Et là, par exemple, ces derniers temps, il y a eu une colère, un mouvement européen, toute l'Europe, de contestation des agriculteurs qui sont levés contre le pacte vert, qui ont dénoncé les mesures du pacte vert. Et maintenant, Tu as même des gens dans la droite européenne, la famille de la grande famille de la droite européenne, qui est, comme je le disais, la famille de la politique de la présidente de la Commission Ursula von der Leyen, qui donc a porté ce pacte vert, mais au sein même de sa famille politique, il y a des partis qui rejettent le pacte vert, qui votent contre des mesures du pacte vert, et c'est notamment le cas des Républicains en France, qui n'ont pas beaucoup d'eurodéputés, là ils en ont eu que 6, mais quand même c'est significatif d'un changement de idéologique, d'une évolution sur ces questions-là qui est liée à l'évolution socio-économique en Europe, pour partie. En tout cas, oui, il y a eu un changement, puisque même au sein de la droite européenne, il y a certains de ses membres qui contestent le pacte vert.
Parlons France, inévitablement, oui. Nous nous y trouvons. Alors, quelle ne fut pas la grande surprise de la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République, Emmanuel Macron, qui termine à 15% à peu près, donc la moitié du Rassemblement national. On avait prévu une victoire du Rassemblement national, même une très forte victoire, donc ça s'est avéré. Fallait-il, selon toi, faire ça dès dimanche ou attendre à l'automne?
Bon, alors, ça, c'est pas à moi de dire s'il devait le faire ou s'il devait pas le faire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a surpris. C'était une décision inattendue en France. C'était demandé depuis de longs mois par le Rassemblement national. Et donc, oui, c'est une conséquence inattendue de ce scrutin européen. Mais alors, est-ce qu'il fallait le faire et il ne fallait pas le faire, ça, l'histoire jugera.
Ah oui.
L'histoire jugera, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a été, la justification de l'exécutif, c'est de, enfin, du président, c'est de dire, les Français ont massivement rejeté la majorité présidentielle, qui fait moins que deux fois le score de, qui fait deux fois moins bien, moins que deux fois moins bien que le Rassemblement national, et donc les Français demandent un changement politique. Il faut répondre à leurs aspirations, en tout cas leur donner la possibilité de s'exprimer sur le sujet.
Voilà. Alors la suite, donc nouveau Parlement, donc 720 eurodéputés et bien entendu nouvelle Commission européenne. À quoi doit-on s'attendre dans le casting von der Leyen? Parce que tout semble indiquer que ce sera elle qui sera élue, mais rien n'est certain. Ouais. Alors disons que le Didier Deschamps de la Commission européenne voit ça comment, ces 26 joueurs ou joueuses?
Alors pour l'instant, où est-ce qu'on en est dans cette course à ce qu'on appelle en jargon bruxellois les top jobs? Dans cette course-là, effectivement, pole position, tu as la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen,
qui n'est pas contestée en plus pour l'instant.
Alors, il y a quand même un petit peu de contestation même au sein de son camp, comme je te l'ai dit sur le pacte vert, et aussi ce qui pourrait lui apporter quelques complications, c'est ce qu'elle fera vis-à-vis de l'extrême droite, vis-à-vis de Mélanie, des conservateurs et réformistes européens.
Elles sont devenues des amies, ces deux-là, ou quoi, bon.
Oui, alors ça, c'est la question. Amies, ça, je ne pense pas, mais bon, disons que ils entretiennent certaines relations, mais ce qui est normal.
Elle est chef d'État.
Elle dirige un pays fondateur de l'Union européenne qui pèse beaucoup, donc elle peut pas ignorer Mélanie. Et le parti de Mélanie là, au niveau européen là, c'est la quatrième force au Parlement européen. Et il se pourrait même que là, il talonne de près les libéraux qui ont perdu beaucoup le camp d'Emmanuel Macron a perdu beaucoup d'eurodéputés. Pas qu'en France, effectivement. Et donc, il se pourrait là qu'ils se rapprochent. Ils sont à 4, là, quand je vais regarder ce matin, ils étaient à 4 eurodéputés du groupe Renew, les libéraux. Et peut-être que là, avec les députés qui ne sont pas encore été placés dans un groupe, il se peut qu'ils dépassent même.
Ouais.
Donc voilà, elle est favorite, Ursula von der Leyen, pour se succéder à elle-même, parce qu'elle était ce qu'on appelle le Spitzenkandidat, c'est-à-dire qu'elle était le candidat chef de file de sa famille politique au niveau européen pour les élections européennes. Donc Et ce candidat-là, chef de file, il est candidat au poste de président de la Commission. Et donc sa famille politique, le Parti Populaire Européen, a largement remporté les élections. Donc elle est en très bonne position pour se succéder elle-même. Mais après, c'est dans l'équipe de commissaires qu'elle va faire pour avoir le vote de l'ensemble. Enfin déjà, en juillet, normalement, si les États membres se mettent d'accord en juin, en juillet, son nom devrait donc être soumis au Parlement européen, qui pourrait voter lors de sa première session qui a lieu entre le 16 et le 19 juillet. Il faut qu'elle ait une majorité sur les 720 députés européens. Les socialistes, là actuellement sa majorité repose sur le Parti Populaire Européen, donc la droite, sa famille politique, les socialistes, enfin les sociodémocrates, et les libéraux. Mais les sociodémocrates ont prévenu que si Ursula von der Leyen faisait une quelconque alliance avec les eurosceptiques du groupe des conservateurs et réformistes européens, il ne la soutiendrait pas.
Bon, alors faut bien choisir ses amis, mais tes nouveaux amis peuvent faire disparaître tes anciens amis.
Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que c'est des équations assez complexes, et en plus, il y a certains membres de sa famille au sein du Parti Populaire Européen qui l'ont lâché. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut pas, il faut être prudent dans ces histoires-là.
Voilà. Et il y a surtout le numéro 2 ou la numéro 2 au représentant aux affaires extérieures, donc les affaires extérieures de l'Union Européenne. Quel nom circule? Parce que bon, Borrell, j'imagine qu'il reviendra pas. Ouais. Quel nom circule?
Ah ben alors, il y a le nom de Kaja Kallas, qui est la première ministre estonienne, qui circule.
Qui est à 300 km de la Russie, hein?
Voilà, exactement.
Saint-Pétersbourg, Tallinn, juste 300 km.
Voilà, c'est ça. Et ce qui pourrait jouer en sa faveur, parce que, elle s'est illustrée, effectivement, au niveau européen, dans son soutien à l'Ukraine, et c'est elle qui a proposé une initiative qui a été reprise par les 27, les 27 États membres, d'achat et de livraison de munitions en commun aux Ukrainiens, ce qui est une politique inédite au niveau européen et qui celle qui l'a proposée ça a été repris par l'ensemble des Européens donc ça a lancé cette politique inédite d'achat et de livraison de munitions en commun. Et en plus, ce qu'il faut savoir dans ces top jobs, il y en a quatre, parce que là on a évoqué donc le chef de la diplomatie européenne avant le président de la Commission. Il y a aussi le président du Conseil européen et le président du Parlement européen. Et ce sont les États membres qui choisissent les candidats, dont certains doivent être approuvés par le Parlement européen. Et il faut qu'il y ait un équilibre qui est compliqué à trouver à 27, qui respecte le résultat des élections européennes. Qui en tiennent compte, du moins, qui a un équilibre aussi entre les orientations politiques des différents gouvernements européens.
Hommes-femmes aussi, moi.
Voilà, hommes-femmes, et aussi origine géographique.
Ouais.
Voilà, donc est, ouest, nord, sud. Et donc là, elle, en tout cas, elle a plusieurs, elle coche plusieurs cases, donc c'est une femme. Qui vient d'un pays de l'Est, un pays balte, elle paraît très compétente sur les questions, elle a montré des compétences certaines, en réalité, sur les affaires étrangères, la diplomatie par son rôle vis-à-vis de l'Ukraine. Et en plus, elle appartient à la famille politique des libéraux qui reste quand même, à l'heure actuelle, là où je vous parle, je te parle du le troisième groupe au Parlement européen, donc ça permettrait, avec la présidente de la Commission qui serait de la droite, elle des libéraux, et elle, un nom qu'on n'a pas évoqué pour le Conseil européen, ça serait le Portugais, l'ancien Premier ministre Antonio Costa, qui est social-démocrate, et la présidente du Parlement qui, elle, à l'heure actuelle, ça serait Roberta Metsola qui...
Elle pourrait renouveler?
Voilà, effectivement, c'est le nom qui circule beaucoup. A priori, elle devrait repartir pour un... toujours y avoir des surprises, mais elle fait figure de favorite pour repartir sur un nouveau mandat. Et donc, elle est de la famille du Parti Populaire Européen, donc qui aurait deux postes, là, sur les quatre qu'on évoque. Mais bon, c'est le groupe majoritaire et de loin, donc voilà. Ce qui s'entend aussi, ouais.
À suivre, donc. Alors, une partie de la réponse cet automne, et assurément au mois de décembre, si tout va bien, tout ce monde-là commence à bosser.
Et peut-être même avant. Hein,
Peut-être même avant.
Si tout va bien. Mais...
Voilà. Alors, je le répète, Boran Tobelem, web rédacteur chez toute l'Europe, toute-l'europe.eu pour en savoir davantage sur les institutions européennes et ses modes de fonctionnement. Merci beaucoup de m'avoir reçu dans ces bureaux en plein cœur du 10e arrondissement. Et évidemment, on se tient au jus parce que l'Europe, c'est un vrai terrain de foot et tout peut arriver. En fait, c'est certainement un sport, voire un sport extrême, n'est-ce pas?
On est bien d'accord.
Voilà. Merci beaucoup. Ça. Merci.
L'Histoire jugera des élections dans le monde. Chaque semaine, des élus, des politologues, des universitaires, des essayistes, des laboratoires d'idées, et j'en passe, nous aident à comprendre les relations internationales. Tous les mardis matins, 8h à 9h, 102.3 FM.
Toujours à Radio Centre-Ville, le 102.3 FM, radiocentreville.com. On s'intéresse encore une fois au sport au féminin à l'approche des Jeux Olympiques de Paris dans quelques semaines. Cette fois-ci, on va plutôt discuter événements féminins sportifs en compagnie de Tania Naville, qui est fondatrice et directrice du festival Femmes en montagne, ou si vous préférez, femmesenmontagne.com, qui a accepté notre invitation et nous sommes en duplex avec Annecy, où a lieu le festival. Tania, bonjour et re-bienvenue à Radio Centre-Ville.
Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation.
Ben, ça me fait un grand plaisir. Alors, Tania, on va parler justement de la présence ou de l'absence des femmes dans la couverture médiatique, entre autres. Mais partons du début, femmesenmontagne.com, qu'est-ce que c'est?
Donc nous, le Festival de films Femmes en montagne a été créé en 2019 car on s'était rendu compte qu'il y avait vraiment un manque au niveau de la médiatisation des femmes dans la montagne et leur pratique de la montagne. Car quand on allait dans les festivals de films ou qu'on regardait aussi bien tous les films qui existaient sur la montagne, tous ces sports et ces pratiques étaient souvent médiatisés au masculin et on avait très peu de femmes à l'écran. Et on s'est rendu compte qu'il fallait essayer d'encourager qu'il y ait plus de ces histoires qui soient portées sur grand écran. Et on avait envie vraiment de rassembler l'ensemble de ces histoires dans un festival. On a donc créé en 2019 la première édition du Festival de films Femmes en montagne pour montrer ces portraits de femmes inspirantes au public.
Alors, pour bien comprendre, femmes en montagne, on parle de quoi exactement? Est-ce qu'on parle de compétition sportive en montagne, comme du ski, comme du saut à ski, ou plus largement, toutes les activités sportives en montagne, par exemple la randonnée pédestre? Qu'est-ce que c'est exactement?
Alors nous, au sein de Femmes en montagne, il y a vraiment tout ce qui va être sport lié à la montagne, mais aussi tout ce qui va être aussi pratique et vie à la montagne. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être le fil rouge, la montagne va être le fil rouge de ces différentes histoires, ces différents portraits de femmes, ces différentes aventures, ce différent dépassement de soi. Mais la montagne reste toujours le fil rouge et le lien entre toutes ces femmes. Que ce soit s'émanciper dans un pays en voie de développement grâce à la montagne, que ce soit se relever d'un deuil, d'une maladie physique ou psychique via la montagne, que ce soit faire avec des copines une expédition en alpinisme, que ce soit randonnée pendant plusieurs jours en montagne pour se relever après de l'anorexie. Voilà, toutes ces histoires ont un fil rouge, la montagne, mais ce n'est pas forcément le sujet principal du film.
Alors, je suis curieux de savoir, Tania, d'où vient l'idée « Je te sais » à Annecy. Donc, j'imagine que quand on grandit autour des montagnes, des Alpes, on est inspiré. Et d'où vient cette idée à la base?
Alors, cette idée à la base, on a créé l'association, donc l'association qui s'appelait avant On n'est pas que des collants, qui maintenant s'appelle Femmes en montagne, pour créer dans un premier temps un média sur les femmes et la mixité en montagne, donc un blog. Et ensuite, on a continué avec des films où on allait rencontrer des skieuses inspirantes autour du monde pour ramener du substrat, en fait, des portraits de femmes inspirantes pour essayer d'inspirer les femmes et les personnes à pratiquer la montagne et essayer justement de tendre vers plus de mixité en montagne. Et suite à cela, nous sommes allés dans le festival et les actions de l'association ou de l'ONG, comme vous pouvez appeler au Québec, mais voilà, l'association a vraiment une volonté de continuer à agir sur différents aspects. On va par exemple à la rencontre des lycéens et des collégiens, donc des jeunes de 11 à 18 ans dans leurs établissements scolaires, pour en fait animer des débats et des projections autour de la place du genre dans le sport et dans les sports de montagne, afin de semer des petites graines auprès de cette jeune génération pour faire évoluer les mentalités sur le long terme.
Alors, parlant de femmes inspirantes dans le monde du sport largement, est-ce qu'il y a d'autres festivals en France ou ailleurs dans le monde qui existent et qui les mettent en valeur ou vous êtes un peu les seuls?
Dans le monde, il y a le Women Adventure Tour qui a lieu tout ce qui est Australie-Nouvelle-Zélande. Il y avait le She's Extreme au Royaume-Uni, mais je ne suis pas sûre qu'il ait encore lieu, qui existait. Je sais qu'on est le seul en France sur le côté montagne, outdoor, féminin. Après, il y a des fois des soirées ou des choses comme ça. Mais à cette échelle-là, je sais qu'on est le seul pour l'instant en francophonie.
Alors, à quoi ressemble, par exemple, la programmation, pour en parler? Est-ce que vous diffusez parfois des films de fiction qui se passent sur la montagne ou c'est plutôt vraiment des documentaires? Comment vous allez chercher votre programmation?
Alors, on aimerait bien avoir des films de fiction, mais majoritairement, on a des films documentaires sur cette thématique-là. On a une possibilité, on a différentes manières d'avoir les films qui arrivent. On est sur une plateforme, sur Prefilmway. Donc, on a des films qui nous arrivent qu'on ne connaît pas du tout grâce à cette plateforme. On a des films qu'on va chercher, c'est-à-dire qu'on va chercher les réalisateurs, les acteurs, les protagonistes du film en disant, bah voilà, on a un festival, venez candidater chez nous. Et puis maintenant, la rançon du succès, mais on commence à être vraiment connu. On a des gens qui attendent notre festival, des réalisateurs qui nous disent, ah, j'ai un projet pour vous. Ou même des réalisateurs assez connus qui vont nous dire, bah nous, on propose qu'à votre festival parce qu'il est vraiment dans notre ligne éditoriale, dans la ligne de notre film. Et ça nous permet vraiment maintenant d'avoir un renom et d'être un moment vraiment attendu, en tout cas au niveau français.
Parlons femmes dans le sport globalement, Tania. Est-ce qu'en France, les athlètes féminines reçoivent le mérite qui leur revient? Alors, je donne cet exemple. On a beaucoup parlé de foot ces temps-ci, Coupe du Monde avec les Bleus, performance quand même respectable, mais couverture médiatique plutôt tranquille et reconnaissance plutôt tranquille côté français. Est-ce qu'il y a un problème de médiatisation des femmes athlètes ou de reconnaissance selon toi?
Bah, y a un vrai problème sur la médiatisation des femmes. Il y a vraiment des études au niveau de tout ce qui est audience, audiovisuel qui le montrent. Hein, parce que même si on parle des fois de l'augmentation de la médiatisation sur les chaînes de télé principales, on se rend compte que c'est pas aux mêmes heures qu'on fait passer les hommes ou les femmes à la télé. Donc ça a toujours été un constat qui existait. Ça augmente quand même vraiment, en tout cas significativement depuis 2016. Ce qui a toujours été dit, c'est-à-dire le public ne suivra pas, etc., c'est faux. On se rend compte que le public est au rendez-vous. On le voit sur les grands rendez-vous sportifs comme le Tour de France avec sa version féminine ou l'Euro de foot féminin qui ont eu des audiences vraiment assez impressionnantes. Donc le public est prêt. Après, c'est comme tout, avant de faire changer les mentalités des chaînes, faire aussi qu'il y ait les... Il y a toutes les histoires d'achat par les chaînes, des manifestations, des choses comme ça, c'est un petit peu compliqué. On est en bonne voie pour tout ce qui est les sports les plus médiatiques, hein, le rugby, le vélo, le foot. C'est plus compliqué pour les sports un petit peu plus de niche, parce qu'il est plus compliqué d'avoir de la visibilité. Je pense que ce qui aide beaucoup le sport et les pratiques féminines, c'est tout ce qui est traitement mixte aussi de l'activité. Je pense à l'athlétisme, je pense aussi à l'escalade, qui est un nouveau sport olympique, et nous, qui est un des seuls sports de montagne olympique, où on se rend compte que la manière de le traiter de manière médiatique, c'est-à-dire avec des compétitions qui sont au même moment, hommes et femmes, pas forcément toujours mélangées, mais au moins où les épreuves sont en même temps, ça permet de donner une plus grande visibilité aux athlètes. Derrière, il y a plus d'aide au niveau sponsoring, donc plus de financiers pour les athlètes, et on a un niveau qui augmente pour les pratiquantes féminines, parce qu'elles peuvent vivre de leur sport aussi, quoi.
Retour à Annecy, est-ce que tu sens un intérêt pour les jeunes filles, les adolescentes, pour le sport de montagne? Après tout, Annecy est très, très bien desservie côté alpin. Est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce qu'une partie, je dirais, de l'économie ou du tourisme roule beaucoup là-dessus? Est-ce que les jeunes filles s'intéressent au sport de montagne?
Je pense qu'en fait, la problématique qu'on va avoir, c'est la même qu'on a sur le sport au féminin en général, quoi, la pratique. On va dire, pas le sport féminin, mais la pratique féminine des sports, c'est qu'en fait, il y a un abandon du sport beaucoup plus tôt chez les jeunes filles que chez les jeunes garçons. Donc ça, il y a des études, hein, qui ont des chiffres là-dessus. En tout cas, nous, en France, c'est le cas. Et que les filles aussi, des fois, ont tendance à se remettre plus tard au sport, 25-30 ans. Du coup, on a un gap là qui dessert un peu le fait du développement pour les jeunes filles des sports de montagne. Et on rajoute aussi que dans certains sports de montagne, on va avoir la notion du risque qui entre en compte. Par exemple, dans tout ce qui est alpinisme, qui fait que c'est des sports sur lesquels on va se former un petit peu plus tard. Je m'occupais avant de la coordination de groupes d'alpinisme féminin pour le club alpin français, et on se rendait compte que les jeunes filles se mettaient plus tard à l'alpinisme que les jeunes hommes. Du coup, elles avaient du mal à pouvoir intégrer les groupes jeunes, parce qu'en fait, quand elles voulaient s'y mettre, en fait, elles avaient déjà dépassé l'âge des groupes jeunes, de manière générale, hein, pas pour toutes les jeunes filles, mais par rapport en nombre. Et on s'est rendu compte qu'en ouvrant les barrières sur des groupes d'alpinisme féminin, en les prenant un petit peu plus âgés, on permettait de combler un petit peu cette marche pour tendre vers plus de mixité ensuite, parce qu'il y avait besoin de les former, on va dire, un petit peu plus tard en âge.
Voilà. Alors, retour au festival Femmes en montagne. Alors, le festival a lieu au mois de novembre. Est-ce qu'on a déjà un peu une idée de la programmation?
Oui, bah, moi, ce que j'aimerais dire, c'est déjà, le festival a lieu en novembre sur Annecy, mais il a lieu aussi en ligne depuis le début du festival, donc du 14 novembre jusqu'au 6 janvier. J'y pense parce qu'on a quand même beaucoup, pas beaucoup, mais le pays qui regarde le plus le festival en ligne, à part la France, c'est donc le Canada, avec principalement le Québec, hein, la partie plutôt par chez vous. Et on se rend compte que c'est vraiment quelque chose qui touche aussi en dehors des frontières de la métropole et qui permet de rendre le festival accessible au plus grand nombre. Pour le programme sur tout ce qui est les films sont encore les candidatures sont encore possibles pour les films jusqu'au 20 juillet. Du coup, on a encore pas mal de films qui arrivent. On en a des très très bons qui sont déjà présélectionnés et qui vont ensuite pouvoir sans doute rejoindre la programmation. Et en parallèle des films en compétition le soir, on a des ateliers tout au long de la journée. Donc on va avoir des ateliers sur la réalisation de films, sur la place des femmes en montagne, un ciné-débat sur qu'est-ce qu'être une femme réalisatrice. On va voir tout ça qui va en fait cohabiter autour du festival.
Voilà, femmesenmontagne.com pour en savoir davantage. Tania, une question et une remarque en conclusion. Revenons à l'alpinisme qui va être présenté aux Jeux olympiques. Question très ouverte, Tania. Crois-tu que les Françaises vont bien performer dans cette compétition et crois-tu même aux médailles?
Pour le ski alpinisme?
Pour l'alpinisme aux Jeux olympiques, première compétition, donc pour la première fois l'alpinisme aux Jeux olympiques, est-ce qu'il y a des bonnes chances que la France performe côté féminin?
On n'aura pas l'alpinisme aux Jeux olympiques, on a le ski alpinisme au prochain jeu d'hiver.
Ah voilà, ok. Voilà. Donc, à surveiller aux prochains Jeux olympiques. Et en terminant, j'aurais envie de...
On a des chances de médailles. Hein. La France est très bien placée pour tout ce qui est ski alpinisme en hiver. Oui, tout à fait. On a une multiple médaillée Emilie Arop, qu'on a eu la chance aussi d'avoir au festival l'année dernière, qui est venue nous présenter un film et qui est multiple championne du monde de ski alpinisme.
Voilà. Et en terminant, suggestion comme celle-là, ça vous prendrait peut-être une chanson officielle. Alors, pourquoi pas demander à une femme de reprendre « Que la montagne est belle » de Jean Ferrat? Il me semble que ça fonctionnerait très bien.
Ah bah pourquoi pas, on attend que vous nous la proposiez peut-être par une chanteuse québécoise, hein. Vous avez des grandes chanteuses francophones.
Voilà, donc je le rappelle, Tania Naville, fondatrice et directrice du festival Femmes en montagne, donc femmesenmontagne.com, à surveiller au mois de novembre, donc festival qui est à la fois en ligne et à la fois sur place du côté d'Annecy. Tania, merci beaucoup pour l'entretien et je te souhaite un bon été et évidemment un bon festival cet automne.
Merci beaucoup et encore merci pour l'invitation.
Merci.
L'Histoire jugera des élections dans le monde. Chaque semaine, des élus, des politologues, des universitaires, des essayistes, des laboratoires d'idées, et j'en passe, nous aident à comprendre les relations internationales. Tous les mardis matins, 8h à 9h, 102.3 FM.
Toujours à Radio Centre-Ville, le 102.3 FM, radiocentreville.com. On poursuit notre série d'analyses sur le sport au féminin. Fin de la saison 2023-2024, c'est déjà l'heure des bilans. Le bilan de la couverture médiatique ou de la non-couverture médiatique. Bref, pour en discuter, pour parler justement de la présence ou de l'absence des femmes dans les médias, j'ai l'honneur et le privilège d'avoir pas n'importe qui, Siani Dalmat, qui est journaliste à l'équipe et membre de Femmes journalistes de sport, ou si vous préférez, Femmes au pluriel, journaliste au pluriel de sport.fr. Elle a accepté notre invitation et nous sommes en duplex avec Paris. Siani, bonjour et bienvenue à Radio Centre-Ville.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Ben, ça nous fait un grand plaisir. Alors, avant de dresser une espèce de diagnostic du sport féminin en France en particulier, Femmes journalistes de sport, Siani, qu'est-ce que c'est?
Alors, c'est une association de femmes journalistes de sport, comme son nom l'indique, donc des journalistes françaises, et qui a été lancée donc en 2021. Et donc, le but de cette association, c'est de faire bouger les lignes, comme on dit, et de rendre plus visibles les femmes qui travaillent dans le sport, dans les rédactions de sportives. L'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de femmes à des postes de journalistes, mais aussi de reporters, mais aussi dans des postes à responsabilité. Actuellement, nous regroupons à peu près 250 journalistes femmes et étudiantes au sein de cette association. L'année dernière, nous avons même édité une charte que nous avons fait signer à une soixantaine de rédactions afin justement qu'il y ait plus d'égalité femmes-hommes dans les rédactions sportives. Donc, on travaille vraiment à une meilleure représentativité des femmes dans les rédactions.
Voilà. Parlons maintenant d'un diagnostic sportif global en France. Question toute simple, Siani. Je reprends les paroles d'Hervé Renard, coach des Bleus, l'année dernière, qui disait que le foot féminin n'est pas reconnu à sa juste valeur. Un an plus tard, êtes-vous d'accord avec lui ou pas?
Le constat, il est assez évident. C'est pas que le foot féminin, c'est globalement le sport au féminin qui manque de reconnaissance. On se rend compte que c'est un peu à l'image de la société, en fait. Les femmes, elles sont souvent sous-estimées et sous-représentées, sous-traitées. Et ça se voit dans le sport. Je me rends compte qu'il y a l'euro, là, en ce moment, de foot. Je ne sais pas si je peux parler de l'euro, du coup. Mais il y avait l'euro de foot. Et on se rend compte que là, il y a un vrai engouement autour de cet événement, qui est un événement masculin, qui implique des hommes. Et C'est toujours plus difficile de créer cet engouement-là quand on part de sport au féminin et de foot au féminin. L'année prochaine, il y aura l'Euro en Suisse. Je suis persuadée qu'il y aura des très très bonnes audiences et de bonnes affluences, mais on ne sera pas au niveau de ce qui se voit chez les hommes. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose de culturel et qu'on a du mal globalement à faire venir du public nombreux, voire des femmes, faire du sport. Et en tout cas, faire un sport comme le football, qui est traditionnellement réservé aux hommes. Alors même si on voit qu'il y a des choses qui bougent, que la Coupe du Monde 2023 en Australie a glané beaucoup de monde, que les stades étaient pleins, qu'il y a eu un engouement, mais on reste quand même assez loin, à mon sens, de ce qui se fait chez les hommes. Et je pense que le combat, il réside dans le fait de faire évoluer les mentalités et que ce soit aussi évident pour des supporters d'aller encourager des équipes masculines que des équipes féminines. Et j'ai pas l'impression que ce soit encore le cas actuellement. Donc je me dis que la route est encore très très longue pour qu'on arrive en tout cas à cette égalité-là.
Eh bien, parlons justement d'Euro 2025. Lors des matchs de qualification de la France contre l'Angleterre, tout allait bien à Newcastle. Le stade était presque rempli. Mais à Saint-Étienne, il y avait quand même des places vides. Est-ce que c'est normal?
Ben non, on peut pas dire que c'est normal. Mais ça illustre parfaitement ce que je vous disais précédemment, c'est que Saint-Étienne, en plus, c'est une vraie ville de foot, ils ont une passion pour leur équipe, l'AS Saint-Étienne, et je suis persuadée que s'il y avait eu l'équipe de France masculine, le chaudron aurait été plein. Or là, c'était très très compliqué de déjà remplir le stade, il n'était pas. Ensuite, en termes d'ambiance, j'ai rarement vu un match de l'équipe de France, et je peux vous dire qu'on a fait beaucoup beaucoup ces dernières années, dans l'Hexagone, où il y avait si peu d'ambiance, c'était presque décevant pour les joueuses. Donc, on voit qu'il y a un énorme travail, mais moi, je suis convaincue que c'est un travail d'éducation à faire auprès des supporters et même des supportrices pour que ça leur semble normal et naturel d'aller voir du sport féminin comme ils iraient voir du sport masculin.
Est-ce qu'aujourd'hui encore en France, si on reste dans les sports d'équipe, disons foot, disons rugby, disons handball, est-ce que un peu partout en France, c'est encore compliqué dans des villes, disons, de taille moyenne, d'avoir des infrastructures qui permettent aux filles de jouer? Pour avoir vu plusieurs vidéos d'Eugénie Le Sommer qui, à la fin avant les années 2000, était la fille du club parce qu'il n'y avait pas de club de filles. Est-ce qu'il y a encore des situations aujourd'hui en France, Siani, où il y a des la fille dans le club?
Je pense que là, pour le coup, c'est une situation qui s'est beaucoup améliorée. Alors, je vais parler d'un sujet que je connais, moi, c'est le foot. On est quasiment à 250 000 licenciés femmes, hein, licenciées de femmes de, et il y a eu un vrai boom en 10-12 ans, là, depuis la Coupe du Monde 2011, dans le sillage de l'équipe de France, de l'Olympique Lyonnais. Il y avait de plus en plus de petites filles qui voulaient faire du foot, et donc, dans les clubs, on sait les recevoir, et c'est très, très rare, les clubs où il y a maintenant juste une petite fille. Il y a de plus en plus de clubs qui mettent en place des sections féminines, qui sont pas forcément en plus en mixité, hein. On peut emmener sa petite fille s'inscrire, et pour être en capacité de jouer qu'avec des autres filles. Donc là-dessus, sur la base, il y a un travail qui est fait. Ensuite, l'objectif de la fédération d'ici 4-5 ans, c'est d'arriver à 500 000 licenciées femmes, en comptant les joueuses, les dirigeantes, les éducatrices, ce qui est un gros, gros travail. Mais je pense qu'on a le vivier pour ça. Maintenant, il faut réussir à les accueillir et à bien les accueillir. C'est pas juste un problème après lié aux femmes, c'est un problème d'infrastructure globale en France où c'est parfois difficile d'avoir des terrains, des créneaux horaires pour s'entraîner. Mais je pense qu'il y a la place pour les filles, il faut juste montrer un petit peu de volonté. Et souvent, la volonté, elle vient du président de club qui a envie de faire une vraie place sincère pour les filles s'ils viennent s'inscrire. Donc il y a la place, il y a les infrastructures pour ça. Il y a de plus en plus de filles qui viennent vers les sports co et vers le football, en l'occurrence, parce que le hand, le basket, le volley, c'est des sports où les filles allaient, je pense, assez facilement, plus facilement que sur le foot, où il y a vraiment encore ce côté un peu macho qui tend à disparaître un peu, mais pour moi, qui était plus prégnant que dans les autres sports collectifs.
Et faut-il le rappeler, en handball, la France est championne du monde, n'est-ce pas, vainqueur au championnat du monde en Scandinavie l'automne dernier. Parlons justement de présidence, Siani, parlons d'administration sportive. Au football, par exemple, quand je regarde du côté anglo-saxon, surtout aux États-Unis, il y a au moins 3-4 clubs de la NWSL dirigés par des femmes, ou du moins majoritairement par des femmes. En France, mis à part Michel Kahn, qui procède de l'Olympique lyonnais, les femmes semblent assez absentes des administrations sportives. Et j'ai pas parlé de la FIFA, 220 clubs, je crois, 220 présidents, aucune présidente. Où sont les femmes?
Il y a le Paris FC aussi qui a une présidente. Donc la section féminine du Paris FC, c'est Marie-Christine Perroni. Mais effectivement, il n'y a pas beaucoup de femmes dirigeantes. Et c'est l'un des vœux de la fédération, c'est de féminiser aussi les instances. Et de féminiser aussi un peu plus les clubs, qu'il y ait plus de dirigeants, mais c'est pas toujours facile parce que c'est un milieu tellement masculin qu'il est difficile de faire sa place, qu'il est difficile de se dire qu'on peut y évoluer sereinement. Donc voilà, il n'y a pas énormément de femmes à la tête des clubs, mais ça aussi c'est amené à changer parce que je pense qu'il y a des anciennes, enfin des joueuses actuelles qui vont prendre leur retraite et qui prendront des places de dirigeantes et qu'on pourrait retrouver d'ici une dizaine d'années à des postes plus importants. Et ça, c'est quelque chose d'important aussi et d'essentiel pour le football parce que il faut que les femmes puissent y trouver leur place. On est en 2024, c'est pas acceptable qu'il n'y ait pas plus de femmes à la tête de clubs masculins ou féminins d'ailleurs, pas forcément que féminins.
Voilà, je le rappelle donc, Siani Dalmat, vous êtes journaliste à l'équipe et membre de Femmes journalistes de sport, Femmes journalistes de sport.fr, Femmes et journalistes au pluriel, bien entendu. En terminant, Siani, vous promenez d'un stade féminin à l'autre. Quand vous voyez dans les estrades des jeunes filles crier les noms de joueuses, quand vous voyez, par exemple, à la fin des matchs, des autographes, des selfies prises avec les joueuses par des jeunes filles, par des fillettes, par des adolescentes, êtes-vous optimiste, êtes-vous confiante pour l'avenir?
Forcément, on se dit que ces joueuses actuelles, elles jouent le rôle de rôle modèle qu'elles n'ont pas forcément pu voir quand elles étaient jeunes. Ça aussi, c'est important, en fait, quand on veut, par exemple, devenir une footballeuse de haut niveau, quand on veut en faire... ça permet de se dire que ces rêves sont réalisables. Donc, je pense que ça ne peut être que positif. On parlait de Jenny Le Sommer tout à l'heure. Elle le disait, quand elle était plus jeune, elle n'avait pas forcément d'idole féminine parce qu'elle n'en voyait pas beaucoup à la télé. Les petites filles de 2024, maintenant, elles vont pouvoir rêver grâce à Jenny Le Sommer, grâce à Wendy Renard, Alex Morgan, Anne Kerr, Beth Mead, voilà, elles ont plein d'exemples maintenant sous les yeux et qui leur font comprendre que tout est possible et même de devenir footballeuse professionnelle.
Voilà. À suivre, donc, Siani, j'aurais envie de terminer par une dernière question. Compte tenu, justement, de ces modèles que les footballeuses françaises représentent, seriez-vous même prête à dire que les Eugénie Le Sommer, Wendy Renard, voire Ada Hildenberg, pour donner des exemples de l'Olympique lyonnais, sont devenues, d'une certaine manière, des militantes pour l'égalité femmes-hommes, même si ce n'est pas leur but? Est-ce qu'elles incarnent ça, selon vous?
Moi, je pense que, de toute façon... Quand on est joueuse de foot à ce niveau-là, très très haut niveau, on est malgré soi dans une sorte de militantisme parce qu'on est là où on ne nous attend pas. Alors Ada Hildenberg, elle mène son combat, elle n'a jamais peur de défendre ses convictions et d'en demander plus pour les femmes, de demander ce qui leur revient d'ailleurs, qui leur revient de droit. Elle a eu le courage de se mettre en retrait de la sélection parce qu'elle estimait que les conditions dans lesquelles elle évoluer la sélection norvégienne n'était pas acceptable. Eugénie Le Sommer, elle fait partie du syndicat UNFP, qui est un syndicat des joueurs et des joueuses en France. Voilà, Wendy Renard, quand il a fallu se mettre en retrait de la sélection, quand ça n'allait pas aussi, elle l'a fait. Donc, elles sont capables de défendre des convictions qu'elles ont. Et je trouve que c'est intéressant parce que même sans le revendiquer, le fait qu'elles évoluent dans un milieu où le machisme est encore très important et qu'elles sont là, qu'elles sont des super joueuses, qu'elles montrent l'exemple, et ben ça fait d'elles des militantes pour l'égalité femmes-hommes. Et c'est le meilleur exemple, c'est concret en fait. On voit ce qu'elles font, on voit qu'elles osent aller sur des terrains qui n'étaient pas forcément explorés avant. Et des fois, des actes valent mieux qu'un long discours.
Voilà. Siani, merci beaucoup pour l'entretien et on va vous souhaiter d'excellents Jeux olympiques et beaucoup d'égalité femmes-hommes dans la diffusion.
Merci beaucoup. Merci à vous.
Merci.
L'Histoire jugera des élections dans le monde. Chaque semaine, des élus, des politologues, des universitaires, des essayistes, des laboratoires d'idées, et j'en passe, nous aident à comprendre les relations internationales. Tous les mardis matins, 8h à 9h, 102.3 FM.